quelque peu superflu de présenter François Sureau, qui nous fait l'honneur et l'amitié de venir nous parler. Malgré tout, pour celles et ceux qui, dans cette salle, le connaîtraient moins bien, je rappelle qu'il s'agit d'un juriste, membre du Conseil d'État, avocat des cours et tribunaux, mais aussi avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et qui, à ce triple titre, connaît bien du dedans le monde judiciaire. Qu'il est homme de lettres et écrivain et membre de l'Académie française, qu'il est aussi un militaire, proche notamment de ce corps d'élite qu'est la Légion étrangère, et je crois qu'il y tient. François Sureau est donc un homme aux vies multiples, mais qui, on ne peut pas ne pas penser au titre du livre qu'écrivit en 1994 Jacques Delors et qui s'appelait « L'unité d'un homme », qui réunit toutes ses vies en une seule, la sienne, lorsqu'il s'agit en particulier de défendre les libertés. Alors au seuil de cette année, au cours de laquelle nous allons tous ensemble tenter de mieux connaître la justice de notre pays, pour peut-être mieux la comprendre, François Sureau était bien placé pour parler librement, à sa façon, de cette singulière tâche, de cette fonction, de ce service, de cette mission, de cette folie, peut-être même de cette imposture qui est celle, pour une femme, pour un homme, de juger ses semblables. Nombreuses sont les phrases de l'Écriture qui n'y incitent pourtant guère, et notre archevêque comme notre grand rabbin auront sans doute leurs idées sur cette question. Dans l'immédiat, François, vous avez la parole. Nous vous écoutons.
Monsieur le Président de l'Académie des sciences morales et politiques, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Secrétaire perpétuel, à moins que ce ne soit l'inverse, je vais donc vous parler de la justice. Entre tous les sujets qui s'offraient à votre sagacité collective, vous avez choisi le plus périlleux. Comme vous le disiez à l'instant, la justice est une vertu, mais juger est un péché. Toute notre tradition nous l'enseigne, du livre de Samuel jusqu'aux évangiles. Dans ceci, on s'en souvient, le juge est mis plus bas que terre, plus bas que les prostituées, plus bas que les soldats, plus bas que les percepteurs, au point que le maître de Nazareth recommande, en cas de dispute, de préférer l'arrangement privé. Et là-dessus, d'ailleurs, les écrits de ses disciples prolongent simplement la méfiance qui exsude du livre d'Amos, si magnifiquement commenté par Rashi. Il change le droit en plante vénéneuse et foule aux pieds la justice. Et Rashi d'ajouter, en prêtant sa voix à Dieu, dans ce commentaire du livre d'Amos, « Mais ils ne se souviennent pas des transformations que j'opère, moi qui change le désespoir en matin. » Bien sûr, dans d'autres sens, les spécialistes relèvent l'origine biblique de la procédure contradictoire. Dieu, pourtant omniscient, connaissant donc à la fois l'acte et l'intention, ne prononce, vous vous en souvenez, aucun jugement avant d'avoir entendu l'homme et la femme, sinon le serpent, et d'avoir confronté leurs témoignages. Mais on peut aussi y trouver l'idée, qui n'est pas précisément réconfortante, qu'aucune procédure ne tient si elle n'est pas mise en œuvre par un juge bienveillant. Je voudrais donc distinguer les institutions de la justice de la faculté de juger. Les premières sont à l'évidence nécessaires, et les secondes continuent de m'inspirer une sorte d'effroi. La fréquentation des cours et des tribunaux n'y a pas aidé. Il faut dire que la technique du droit, dont pourtant on ne peut pas se passer, parce qu'elle vise à mettre à l'écart les passions, met souvent à l'écart aussi l'humanité, et même parfois les principes. Lorsque j'étais au Conseil d'État, j'étais frappé de l'ingéniosité qui pouvait s'y trouver déployée par trésors entiers pour ne jamais rapporter une question apparemment technique à son principe fondateur. Ou bien, si tel était le cas, pour en dire le moins possible. Un commentaire comme celui du juge Brandeis dans sa célèbre opinion dissidente sur Olmsted en 1928 devant la Cour suprême des États-Unis est tout à fait inconcevable chez nous. Aussi bien d'ailleurs, comme le disait Robert Banater, sommes-nous le pays non des droits, mais de la déclaration des droits. Contrairement à l'excellente idée que nous avons de nous-mêmes, la liberté est chez nous l'exception et non pas la règle, sauf pour quelques décennies de la Troisième République, si l'on oublie bien sûr l'expulsion des religieux et la dissolution des congrégations, qui seraient aujourd'hui unanimement condamnées par la Cour européenne des droits de l'homme. Et pour les années heureuses, qui séparent la grande décision du 12 janvier 1977 du Conseil constitutionnel de la première décennie de notre siècle. Relativement à la question des droits fondamentaux du citoyen, nos errements sont de toutes les époques. Il suffit de relire la somme que Maurice Garçon a consacrée à la justice de la Troisième République, que nous voyons pourtant maintenant comme le temps béni de la justice libérale, la censure morale s'y donne libre cours, comme aujourd'hui, et la justice d'exception de même. Un fil noir relie à l'évidence, en matière institutionnelle, la répression de la commune, la répression des menées anarchistes, la répression des résistants, la répression des collaborateurs, la répression des tenants de l'Algérie française et des attentats terroristes. S'y déploie la même idée saisissante, répandue depuis plus d'un siècle dans le personnel politique français de toutes les époques, que la garantie des droits est un obstacle à une répression efficace. Cette idée est d'autant plus forte, comme il arrive souvent, qu'aucun élément de fait ne vient l'étayer. Les pays qui pratiquent rigoureusement l'habeas corpus n'ont pas un taux de punition des crimes et délits inférieur au nôtre. Au contraire. Et peut-être faut-il voir dans cet état d'esprit qui nous fait précéder l'incessante modification des normes à la réflexion sur les pratiques un trait du caractère national. Il en résulte une confusion sur laquelle je reviendrai et qui a eu pour effet de dégrader les grands principes sans en obtenir aucun progrès dans la sécurité publique ou même dans le sentiment que l'opinion peut en prendre. Je vais donc tenir ici, afin d'apporter, je l'espère utilement, une contribution à vos débats, des propos qui pourront vous paraître sévères. Je vous prie de ne pas oublier qu'ils sont dictés par l'amour de nos institutions judiciaires au sens large. Celui qui a eu pendant près de 40 ans affaire à la justice, et je ne parle pas ici bien sûr de la vertu mais de l'institution, peut reprendre à son compte, à propos de cette institution même, les mots que Paul Valéry a mis dans la bouche de M. Teste s'adressant à lui-même. « Je me suis détesté, je me suis adoré, puis nous avons vieilli ensemble ». Dans cette contribution, j'emploierai, vous me le pardonnerez, un ton souvent personnel, mais après tout, le thème que vous avez choisi, « Regard sur la justice », m'y incite, et puis il n'y a pas de regard collectif. J'évoquerai aussi, en passant, pour prendre congé d'eux, certains souvenirs que j'ai gardés de ce monde en équilibre instable entre Daumier et Portalis, entre le sourire et l'ennui. Parce que je dois cette invitation qui me fait honneur à l'amitié de Bruno Cotte et de Bernard Stirne, je me défends mal contre une sorte de nostalgie. Je revois le Conseil d'État de mes débuts, auquel dans la suite je vais consacrer quelques critiques. Il est de bon temps aujourd'hui de le vouer aux gémonies lorsqu'elle ne souscrit pas aux passions de l'époque, de la même manière que l'on critique, pour les mêmes raisons, le Conseil constitutionnel ou la Cour de justice de l'Union européenne. Cette critique porte à faux parce qu'elle se réclame de la souveraineté populaire contre le gouvernement des juges. Mais un peuple traversant l'histoire ne peut pas être réduit à sa seule forme actuelle. Celui d'aujourd'hui n'a pas, ne saurait avoir, le pouvoir d'anéantir les principes que celui d'hier et d'avant-hier a voulu faire advenir, et au prix de quel sacrifice. Je continue de savoir gré à nos juges où qu'ils servent, de vouloir maintenir contre les vents et les marées de l'opinion ce patrimoine immatériel dont nous avons tout lieu d'être fiers. Aussi, je revois le grand couloir tendu de rouge où s'en passaient tant d'anonymes supérieurs, tout occupés des soucis de l'État, des libertés et du pouvoir, composant de mystérieux précipités dans leurs éprouvettes avant de rouler dans la retraite et dans l'oubli. Nommé dans cet empiré, pourvu d'un titre qu'avaient porté Stendhal et Renaud de Saint-Marc, qui avait été mon professeur, le roi n'était pas mon cousin. Je me disais que la France devait à mes nouveaux collègues une partie de sa beauté et de son charme, parce qu'ils avaient empêché les catastrophes que peuvent provoquer l'amateurisme politique, l'enthousiasme bureaucratique ou, pire encore, le culte des opinions définitives. Les vivants de la confrérie célébraient le culte de leurs morts, en passant bien sûr sous silence les démérites de ceux qui avaient laissé leur nom au bas de César et portant sur la qualité de juif au sens d'eux. Il n'y avait alors pas au Palais Royal une seule photocopieuse, puis une photocopieuse, et l'on recopiait les précédents à la main, ce qui était la cause de la précision du tir et de l'imperiatora brevitas. Le président Chardot, dont nous avions lu les conclusions d'après-guerre, et qui était l'héritier de Gustave Caillebotte, nous avait reçu en nous disant en souriant quand il était entré lui-même, la tradition voulait que les auditeurs reversent la totalité de leur traitement à la caisse de secours du personnel, ce qui donne une idée du milieu auquel tous ces gens appartenaient. On évoquait Solal Cellini, au souvenir duquel m'attachaient des liens quasi familiaux, mort tragiquement d'une chute de cheval, après avoir collaboré à la rédaction de la Constitution. Les révoqués de 1941 y côtoyaient les anciens du cabinet du maréchal, les pilotes de la RAF, les attentistes de 1943, et personne n'en parlait jamais. On disait que Tony Bouffando, président du contentieux, avait laissé à son départ une feuille où étaient inscrits les noms des 5 membres qui devaient lui succéder et qu'il ne s'était pas trompé. Je n'avais pas encore compris alors que la phrase « j'ai quelques doutes » signifiait « je vous tiens pour tout à fait insuffisant » et « j'ai les plus grands doutes » voulait dire « vous êtes un parfait crétin ». C'était un autre monde, comme dit Louis Jouvet dans « Quai des Orfèvres », un monde tout de mesure que les vagues du temps léchaient sans le mouiller. Comme nombre d'autres, j'ai ressenti assez tôt de l'impatience devant ces atmosphères prudentes. Si la civilisation est un vernis, les cours suprêmes sont le vernis de ce vernis. Je me défends à présent contre cette impatience, parce qu'elle est partagée désormais d'un côté par les chevaliers du bien, qui nous préparent en toute inconscience un monde amnésique et cruel, et de l'autre par les mordus de l'efficacité politique pure. L'activiste a remplacé le citoyen, le communicant a remplacé le ministre. Et dans ce paysage désespérant, l'appareil judiciaire, des cours suprêmes aux juges d'instruction, paraît la dernière institution sociale où se trouve porté jour après jour le témoignage irremplaçable de ce que nous avons voulu être en tant que nation. Les critiques que je vais formuler ne portent donc que sur les manifestations les plus éclatantes d'une sorte d'infidélité à soi-même, dont les juges ne sont d'ailleurs pas les premiers responsables. Dans le mouvement des 30 dernières années qui nous a vus, contrairement au Conseil de Gide, suivre notre pente en la descendant plutôt qu'en la remontant, les cours elles-mêmes ont moins lâché prise que la classe politique ou l'opinion. Je vous proposerai donc de m'accompagner dans un voyage d'hiver, la neige des entraînements et des habitudes ayant recouvert nos monuments institutionnels au point qu'il devient difficile d'en discerner les formes. On s'en rend mieux compte si l'on rapporte les évolutions de ces dernières années à deux principes simples, sur lesquels j'espère en tout cas que nous pouvons tous tomber d'accord. Le premier, la justice doit être digne du citoyen libre. La deuxième, la justice doit garantir l'existence du citoyen libre. La question est de savoir si nous avons maintenu cet idéal. Personnellement, je n'en crois rien. Peut-être Agamben a-t-il eu raison d'écrire que nous avions changé de monde en admettant, sans en avoir une conscience claire, que les droits ne soient plus le centre de notre état de droit, mais qu'ils puissent être compris comme une simple concession du pouvoir. Aussi, les droits sont-ils définis largement dans leur essence comme dans leur étendue par les titulaires des offices, politiques ou judiciaires, au lieu d'être ce point de fuite inaltérable par rapport auquel toutes les perspectives s'ordonnent, si bien que le rôle du juge ne peut pas être séparé de celui du législateur. Je ne parle pas ici seulement du spectacle affligeant donné par certains membres illustres du parquet terroriste faisant les couloirs des commissions des lois pour obtenir la diminution des garanties des présumés coupables, spectacle auquel j'ai personnellement assisté. Si l'on reste attaché, comme le veut la tradition libérale, au rôle du juge, on ne peut manquer d'être frappé de la manière dont ce rôle peut se trouver d'une part obscurci par la conception que nous avons des lois et d'autre part empêché par la tendance du législateur à vouloir transformer le juge en fonctionnaire du tarif répressif. Les peines planchers ou l'automaticité en disent long à cet égard, tout comme l'émotion qui s'empare de la classe politique après qu'un drame ait suivi une mise en liberté prononcée en toute conscience par un juge indépendant. Il ne sert à rien d'affirmer que l'autorité judiciaire est gardienne des libertés, et j'y reviendrai, si le juge se trouve contraint par la loi, directement ou d'une manière implicite, de l'exercer dans un sens qui n'est pas celui des libertés. Et ceci ne vaut pas seulement pour les injonctions particulières, mais pour les procédures, le référé détention à l'initiative du parquet, absolument incohérent par rapport à la mission du juge d'instruction, ou par l'esprit général d'une législation. Dès lors que l'on crée une incrimination d'association de malfaiteurs à but terroriste, sur laquelle je reviendrai, on crée par là même une incitation à en user, ce qui ne va nécessairement pas dans le sens des libertés. D'autant que l'incrimination ayant été créée, la Cour de cassation, chambre criminelle, l'a étendue dans son application aussi loin qu'il lui était possible, réduisant à peu de chance l'exigence de l'élément intentionnel et à rien l'exigence de l'intérêt matériel. Je recommande la lecture de l'arrêt du 10 janvier 2017 à tous ceux qui veulent prendre une vue réaliste de ce que la formule du juge judiciaire gardien des libertés peut recouvrir. On y lit en toutes lettres que l'infraction n'implique pas une intention individuelle, mais, je cite, « l'adhésion à un projet collectif de trouble à l'ordre public par l'intimidation ». Les mots parlent d'eux-mêmes. Il est un autre élément à garder en mémoire pour apprécier la situation de l'institution judiciaire, et c'est la transformation du sens de la loi. La vérité, c'est que la loi ne correspond plus guère à la définition qu'en donne la Constitution dans son article 34. Si l'on se souvient, au même moment que les articles 20 et 21 sont également passés de mode, c'est la définition entière de l'exécutif et du législatif qui sont au fondement du dispositif constitutionnel, en tout cas qu'il a rapport avec l'édifice normatif, qui a cessé d'avoir cours. Là-dessus, s'agissant de l'article 34 seul, Laurent Fabius, s'exprimant devant vous en novembre de l'année dernière, a eu des paroles définitives qui sont, je dois le dire, moins remarquables par leur originalité que parce qu'elles ont été émises par le président en exercice du Conseil constitutionnel. Que la plus haute autorité constitutionnelle du pays indique benoîtement qu'un article central de la Constitution a cessé de produire de bons effets mérite au moins réflexion. Rassurez-vous, rien n'indique qu'il se passera quelque chose. Et si la réforme constitutionnelle qu'on nous promet maintenant depuis 6 ans finit par advenir, vous pouvez être sûr qu'elle passera à côté de ce point essentiel. Car la classe politique, dans la situation où elle se trouve, a besoin de l'inflation législative pour laisser croire qu'elle agit. Le troisième pouvoir, qui comme on sait n'en est pas un mais une autorité, se trouve inévitablement affecté par ces évolutions. Il l'est plus profondément encore parce que l'exercice du pouvoir de juger, si du moins il doit être conduit conformément à l'idéal de la Déclaration des droits, suppose des lois simples, claires, peu nombreuses et qu'un large pouvoir d'appréciation soit reconnu au juge. Il n'en est plus rien et c'est le pont aux ânes de la sociologie administrative que de le relever. Laissez-moi vous donner quelques éléments de pure fête. Le code pénal a été modifié 133 fois en 10 ans. Le code de 1810 comportait 500 infractions. Le code actuel en établit plus de 15 000. 16 374 exactement si on rajoute les infractions douanières et fiscales. Plus généralement, l'activité législative s'apparente à une rivière en crue. De 58 à 81, le journal officiel ne change guère. À partir de 1981, la bonde est lâchée, aboutissant à une croissance de près de 100%. Un membre du Conseil d'État, Christophe Eoch Duval, s'est livré récemment à une analyse exhaustive de Légifrance, aboutissant à cette notation effarante qu'au début de l'année 2022, le stock net de mots dans Légifrance, de mots au sens de normes, s'élevait à 44 millions. Les amateurs de pittoresque trouveront là-dessus évidemment d'innombrables occasions de se réjouir. Le président Gabriel Vucht avait à ce propos, à l'intention des jeunes auditeurs que nous étions, une formule définitive. Le journal officiel n'est pas fait pour ceux qui vont l'appliquer, mais pour ceux qui vont y croire. Et tout cela, dans d'innombrables cas, en pure perte. Arnaud Philippe, dans son livre « La fabrique des jugements », que je vous recommande, cite parmi d'autres l'exemple d'une réforme du code pénal décidée en 2007. Le chef de l'État de l'époque s'étant ému à juste titre du décès de plusieurs enfants attaqués par des chiens. Un texte de 2008 crée donc 24 nouveaux délits, 25 contraventions de quatrième classe et une infraction de quatrième catégorie dans la nomenclature du ministère de la Justice. La mort causée par un chien dangereux est désormais une circonstance aggravante du délit d'homicide involontaire. 10 ans plus tard, une seule condamnation avait été prononcée. 1250 ont été prononcées depuis, mais toutes les peines prononcées auraient été permises dans l'absence de cette loi. Le législateur contemporain ressemble à Dieu, qui fait exister les choses en les nommant, et à un caporal d'intendance qui règle avec passion des points de détail. On peut rêver sans mesure sur cette préférence pour la norme, qui à la fin n'en est plus une, et qui est sans exemple dans les États comparables. Les raisons de cette évolution dépassent évidemment le cadre de mon propos. Peut-être la paix civile nous paraît-elle si peu assurée qu'il faille l'obtenir en quelque sorte par force et dans les détails, parce que si le moralisme est partout, la morale commune a disparu, et que seule la loi, fût-elle adultérée, nous paraît avoir le pouvoir en quelque sorte magique d'assurer cet assentiment public aux institutions dont parle Pascal. La loi et non le jeu normal des institutions judiciaires en premier lieu. Il n'y a pas non plus de justice rendue au bénéfice des citoyens sans une définition claire des fonctions de chacun des acteurs. Là aussi, le spectacle auquel nous assistons est bien curieux. La France est un étrange pays, en réalité gouverné par le principe de l'échange des rôles. Chacun fait le travail de quelqu'un d'autre. Les ministres tweetent comme des journalistes et parlent comme des fonctionnaires. Le Premier ministre n'est plus ce qu'il était. Les éditorialistes forment le shadow cabinet de toutes les oppositions. Des brigades de folliculaires miment les pratiques de la police judiciaire. La répression judiciaire des actes politiques l'emporte. Les parlementaires se rêvent en juges d'instruction et convoquent l'une après l'autre des commissions d'enquête. Et si l'on prend l'institution judiciaire elle-même, on est frappé exactement par le même travers. Le parquet se voit chargé de la police administrative des manifestations. La garde à vue est utilisée massivement comme un instrument du contrôle des foules. Le président des assises ou du tribunal correctionnel refait à la barre le travail du juge d'instruction qui, lui, est absent du débat public. Et le parquet se transforme, même au bénéfice d'une homologation finale, en juge, par le jeu de la reconnaissance préalable ou de la convention judiciaire d'intérêt public. Je mentionnerai en passant, à titre d'exemple, la confusion lamentable due à la concurrence des juges administratifs et judiciaires dans la défense des libertés publiques. Cette confusion, qui a débouché sur un mélange incompréhensible aux yeux de quiconque, de la police administrative et de la police judiciaire, a évidemment été accrue par un recours immodéré à l'état d'urgence. Plaidant en référé liberté il y a quelques années sur la question du renouvellement de l'état d'urgence antiterroriste, j'ai été frappé de ce que la représentante du gouvernement, c'est-à-dire en l'espèce parlons franc du ministre de la Police, insistait sur la permanence de la menace terroriste qui n'était pas prête de disparaître. J'ai donc demandé naïvement si dans ces conditions l'état d'urgence avait vocation à être indéfiniment maintenu et les garanties élémentaires indéfiniment suspendues par voie de conséquence. La réponse m'a surpris et c'est un euphémisme. L'état d'urgence, d'après ce fonctionnaire, je parle de propos qui ont été prononcés en séance publique, avait vocation à demeurer en vigueur jusqu'à ce qu'on ait enfin pu transférer au juge administratif la compétence générale de protecteur des libertés. J'ai cru, en entendant cela, que les murs de Jéricho allaient s'effondrer devant cet étonnant aveu claironné par la trompette policière. Rien ne s'est produit et le débat a continué sous la houlette bienveillante du président Stern. Je cite cette anecdote parce qu'elle révèle la confusion des esprits. La digne représentante du gouvernement se faisait sûrement des illusions sur la docilité du juge administratif. Et il s'en faut de beaucoup que j'adhère entièrement à l'exposé par ailleurs remarquable du président Canivet sur la décomposition, ce sont ses termes, de la protection constitutionnelle de la liberté individuelle, telle qu'il l'a décrite dans un article de 2021. Le juge judiciaire n'est pas libéral par nature. Le juge des libertés de la détention est surtout, comme savent ceux qui l'ont pratiqué, un juge de la détention. Son intitulé relève de l'imposture légère qui s'attache au titre de notre monde contemporain, où si on décidait de rétablir la peine de mort, l'exécuteur des hautes œuvres s'appellerait sûrement, par la grâce d'une loi écrite à cet effet, défenseur de la vie, si on décidait de lui redonner du travail. Le juge judiciaire agit dans le cadre de la loi, que celle-ci vise trop large, et quand bien même serait-il animé des meilleures intentions, il n'en pourra mais. Nous apprenons Voltaire à l'école, et ces juges moitié singes et moitié tigres dont il parle à propos de l'affaire Calas, et voici nos législateurs, étendant à l'infini le domaine du soupçon et encourageant ces mêmes juges à disposer dans le vague des rédactions qui servent à incriminer les libertés de la nation entière. Cette référence à l'état d'urgence me conduit à en examiner brièvement la problématique. Je ne vous infligerai pas de trop longs développements juridiques, mais je voudrais essayer de relever ce qui sous-tend le recours à ces pratiques. Le Conseil d'État l'a rappelé récemment, depuis 2015, c'est-à-dire pour cette année, la France aura vécu la moitié de la période sous le régime dérogatoire de l'état d'urgence antiterroriste ou sanitaire. Ce qu'on peut y voir, en prenant un peu de recul, c'est une étonnante perte de confiance dans la vertu et des institutions de droit commun. D'ailleurs, en se retirant, si je puis dire, les états d'urgence laissent, comme on sait, nombre d'innovations qui s'incorporent à ce même droit commun. À l'état de grand trait, par exemple, l'état d'urgence antiterroriste consiste à retirer des pouvoirs aux juges judiciaires pour les remettre à l'administration. C'est supposé, naturellement, qu'un fonctionnement normal n'aurait pas permis de poursuivre les méchants. C'est adhérer à l'idée que nos institutions ne vaudraient que pour les temps calmes et la garantie des droits du citoyen avec elles. Mais rien de tout cela ne peut être admis sans examen. Pour les avoir fréquentés, je ne trouve pas qu'un procureur ou un juge antiterroriste doivent être rangés dans la catégorie des humanistes béants dans mon genre, là où le sous-préfet ou le président du tribunal administratif serait habité par nature, par le sens de ce qu'un État doit à une collectivité meurtrie par des attentats criminels. Mais il fallait paraître faire quelque chose de décisif. Cette pente est une pente dangereuse. De même que l'est, mais c'est un autre débat, même s'il lui est connexe, cette tendance à la reconnaissance du motif politique ou religieux dans la répression du crime. Il est, je crois, tout à fait indifférent que le criminel ait prétendu agir au nom de telle religion ou de telle idéologie. Une justice antiterroriste est relativement au principe dégradée simplement par nature parce qu'elle reconnaît une valeur particulière au motif politique, lequel fonde en définitive seule son existence. Là-dessus, je vous renvoie au développement de Léon Blum critiquant dans la Revue Blanche les lois de 1887 visant à la répression des menées anarchistes. Nous nous y sommes faits, ça n'est pas une raison. Et trop souvent, ces questions essentielles sont vues comme procédant du pur corporatisme. Avocat contre magistrat, magistrat contre avocat, juge administratif contre juge judiciaire, parquet contre instruction, police contre tout le monde et corps préfectoral en embuscade au cas où par malheur on libérerait un assassin corse qui a purgé sa peine. Ces luttes existent, bien sûr, mais elles sont anecdotiques. La seule vraie question est de savoir si ces dérives institutionnelles rendent plus efficace une répression nécessaire ou si elles placent seulement le citoyen dans un état d'incertitude préjudiciable à l'exercice de sa souveraineté politique. Le citoyen doit savoir à quoi s'attendre, il doit savoir sur qui compter, il ne doit pas pouvoir être intimidé par l'État, et plus prosaïquement encore, il doit comprendre ce qui lui arrive. Il ne s'agit pas ici à proprement parler des droits du délinquant en tant que tel, mais du droit de ce citoyen qu'un simple moment sépare de la commission du mal. Comme l'a si bien exprimé Simenon dans ce chef-d'œuvre qui s'appelle « Lettre à mon juge », c'est en définitive du climat d'une société tout entière qu'il s'agit. Et là-dessus, nous n'y sommes pas du tout. Prenez pour rester concret le déroulement de la justice pénale. Le prévenu a eu affaire à la police ou au parquet. Il a passé des heures dans le bureau d'un juge d'instruction. Le voilà à l'audience. Son juge, pour parler comme Simenon, n'est pas là. Du haut de son poste surélevé, l'accusateur public, c'est-à-dire le parquet, reste silencieux pendant que le président refait l'instruction à la barre, alors que le juge n'y est pas. Un délinquant, même chevronné, n'y retrouverait pas ses petits. Bien sûr, il en résulte un pittoresque, auquel un esprit littéraire est sensible, et dont les chroniques judiciaires recueillent les traces. L'une des plus belles reste la réponse d'un malfrat comparaissant autrefois aux assises de la Seine. Le président feuillette un dossier épais et lui jette d'un ton là. Oh, « Je vois que vous avez déjà été condamné de nombreuses fois. » À quoi notre homme répond fièrement « Ah oui, monsieur le président, mais ça ne compte pas, c'était en province. » Plus sérieusement, il ne faudrait pas de grands efforts pour rendre ces séances simplement intelligibles. Que le parquet s'exprime d'abord, comme il convient, pour dire ce que la société reproche aux prévenus. que le président et la Cour et le public entendent le rapport du juge d'instruction, comme il est fait au nom près devant les organes de sanction des autorités administratives. Après tout, aux assises, le président procède bien à la lecture de l'ordonnance de renvoi, après quoi le débat s'engagerait, témoin inclus, sur la base de la proposition du magistrat instructeur présent à l'audience. Il y a dans notre système bien d'autres défauts avérés dont on se soucie assez peu, lui préférant les grands débats théoriques. Je n'en citerai qu'un. Comme nous n'avons pas d'habeas corpus, le régime de la détention provisoire est bien commode. On est détenu sans jugement, 6 mois, 1 an, 2 ans. Après quoi vient le moment de juger. Et quand bien même le prévenu n'aurait mérité que 6 mois ferme, s'il a fait 1 an de préventive, c'est évidemment à cette peine qu'on le condamne, parce qu'une institution ne se déjuge jamais. Ces errements sont lamentables. À tout cela, il serait assez simple, me semble-t-il, de porter remède, sans même songer à revenir devant le législateur ou à appliquer in extenso le célèbre rapport de Mireille Delmas-Marty. La vérité, c'est que ce dont je viens de vous parler, tout le monde en convient. Et puisque je me suis laissé aller tout à l'heure aux confidences, je vais solliciter votre indulgence à nouveau. Lorsque j'ai été nommé avocat au Conseil, je suis allé me présenter selon l'usage au premier président de la Cour de cassation et au président de chambre. Par les hasards du calendrier, ils sortaient tous de leurs fonctions éminentes au moment où j'entrais dans les miennes, considérablement plus modestes. Mais enfin, ils s'exprimaient librement et la conversation fut passionnante. Et chacun d'entre eux sans exception, m'expliqua ce qu'il aurait fallu faire pour rendre notre justice à la fois efficace et humaine. Chacun d'entre eux m'expliqua ce qu'il aurait fait sur la réforme du filtre en matière de justice constitutionnelle ou sur la réforme du système des audiences si on lui avait demandé son avis. Et je me suis gardé de leur demander pourquoi ils n'y avaient pas pensé avant, pourquoi ils ne s'étaient pas exprimés avant. Et je les ai quittés, à la fois admiratifs et songeurs. Je n'ai donné que quelques exemples concrets de ces fractures qui me paraissent assez faciles à réduire. Il en est d'autres qui le sont moins. Je veux parler ici, pour ouvrir votre année, de la langue de la justice, idée fascinante, de la conversation judiciaire. Il y a d'abord cet abîme infranchissable entre les mots du tout venant et les mots de la justice. Et là-dessus, vous savez que les commentateurs se partagent en 2 espèces. Il y a les optimistes, dont Gide, dont vous vous souvenez qu'il s'était fait désigner, c'était une heureuse époque, comme juré d'assises pour pouvoir écrire là-dessus. Et lorsqu'on lit ses souvenirs de cours d'assises, on voit bien que pour lui, rien n'a échappé au discernement, chacun à sa place, des magistrats professionnels au jury. Et puis de l'autre côté, sur l'autre bord, il y a Giono, saisi d'effroi de voir le président des assises dans l'affaire Dominici traiter ce que Giono prend pour un drame antique en usant du vocabulaire de la causalité bourgeoise, un peu comme si Ulysse, retour de ses aventures, était jugé par Paul Bourget. En ce domaine, sans doute, il n'y a pas de règle générale et rien qu'on puisse imaginer changer pour le meilleur. Trop peu digne du citoyen libre, notre justice en garantit-elle l'existence politique ? J'en ne suis pas sûr non plus. Je dirai un mot de sa partie sommitale, la justice constitutionnelle, avant d'en venir à la justice pénale dans son rôle politique au sens large. J'insiste encore une fois sur le fait que je n'entends pas critiquer les juges eux-mêmes à quelque cours qu'ils appartiennent. Il me semble que nous sommes tous responsables de ce que notre système est devenu au fil du temps, opinion, parti, parlement et gouvernement. Notre justice constitutionnelle mérite bien des éloges. Partie d'à peu près rien, c'est-à-dire de ce rôle de gardien de la compétence réglementaire auquel les fondateurs de la Ve République avaient prétendu la cantonner, elle a su, depuis 1971 et 1977, et depuis la création des questions prioritaires de constitutionnalité, faire respecter ce patrimoine immatériel des droits, qui est étrangement chez nous un objet de débat récurrent, alors même que l'invocation républicaine est sur toutes les bouches. Il faut savoir gré à ces 9 juges d'avoir défendu, comme en 1793 ou 1815, assigné à résidence sans motif par décision de l'autorité préfectorale, ou incriminé quelqu'un à raison de sa consultation d'un site, entre autres constructions délirantes auxquelles tout le monde dans la classe politique avait consenti, sans que personne ne puisse raisonnablement espérer de ses errements aucune efficacité particulière. C'est bien le Conseil constitutionnel qui constitue le dernier antidote à cette passion si française d'écrire les lois, non en fonction de la réalité, mais en fonction de la manière dont les bureaux de l'administration l'appréhendent. On trouve à cet égard, dans le registre des délibérations du Conseil constitutionnel pour 1977, une perle que je vous livre. Il s'agit d'un propos de Roger Frey, ancien ministre de l'Intérieur du Général, alors président, et dont les plus anciens d'entre nous se souviennent qu'il n'avait quand même que peu de choses en commun, sur le plan philosophique, avec Henri Leclerc, je le cite. Le président remercie M. Costefloret de son rapport et formule 2 observations. Il rappelle que le Conseil compte dans ses membres deux anciens ministres de l'Intérieur, fonction que, pour sa part, il a conservée pendant une longue durée. Cela lui a permis, tout comme à son collègue, de constater que l'administration a toujours dans ses cartons d'innombrables textes de circonstances qui, en fait, ne servent à rien et dont l'adoption serait lourde de danger. Il n'y a pas de mois où l'on ne propose à un ministre de l'Intérieur un texte limitant la liberté au motif qu'il faciliterait l'action de la police. Fermez les guillemets. Tout est dit. À notre perte collective de sang-froid, le Conseil constitutionnel a opposé depuis 20 ans une résistance tranquille qui n'est pas sans grandeur. Il est extrêmement frappant qu'il ait été à peu près seul à le faire. On peut trouver la raison de cette solitude dans la manière que nous avons de bouter le respect du droit en dehors du cercle des finalités de l'action publique. La conséquence est évidemment que l'administration, le gouvernement et le Parlement s'en tiennent facilement quitte et comptent sur le Conseil constitutionnel pour faire respecter à la fin les tables de la loi. Je ne sais pas si cette façon de faire est concomitante à l'avènement de la technocratie, qui tente à confondre la règle et le règlement de l'infanterie, le principe étant un fétiche, un chiffon de papier, toute chose gênante. Cette mode est assez récente et connaît de multiples manifestations. Prenez par exemple la création de ce bizarre défenseur des droits, qui, comme si ce n'était pas le travail de l'administration de défendre ces droits qui sont au cœur de notre existence collective, ou celui du juge de la censurer lorsqu'elle y manque. Cette création résume parfaitement notre entrée collective dans un univers nouveau marqué par la division des fonctions. D'un côté, la politique, l'administration, les gens sérieux. De l'autre, les amis des fétiches, les gardiens de musées, les théologiens byzantins. Et j'exagère à peine. Voyez la manière dont, après avoir favorisé ce qui est de notoriété publique, un compromis sur la loi relative à l'immigration, comme si la Constitution ne le tenait en rien, l'exécutif a saisi le Conseil constitutionnel sur le texte qu'il avait lui-même voulu. Je n'aime pas citer les ministres parce que nul ne peut plus guère les prendre au sérieux et que leurs propos, le plus souvent, ne sont que feuilles au vent. Mais parfois, l'un d'entre eux lâche par mégarde, en ouvrant la bouche, comme le maréchal Lebeuf et son bouton de guêtre en 1870, un morceau de la vérité du temps. Et voici le ministre de l'Intérieur déclarant benoîtement dans un pays censément régi par l'état de droit, je cite, « Le travail du Conseil constitutionnel fera son office, mais la politique, ce n'est pas être juriste avant les juristes. » Ces attitudes insensées ne sont pas absolument nouvelles. Je me souviens qu'après la publication d'une décision du Conseil constitutionnel censurant le mécanisme de la rétention de sûreté, le président de la République d'alors avait, c'était en février 2008, publiquement demandé au premier président de la Cour de cassation de lui faire des propositions pour aider le gouvernement à contourner cette décision lamentable. Il ne s'était d'ailleurs pas pour autant attiré les foudres de ce dignitaire, la magistrature sommitale réservant ses objections ou sa colère aux déclarations qui la mettent en cause en tant que corps, et non pas à celles qui menacent ses libertés qu'elle a pourtant pour vocation de garantir. On pourra méditer à loisir sur cet esprit des lois qui nous est propre, qui permet à un ministre de la police de manifester contre les juges, comme à des centaines de parlementaires de tous bords de se défausser de leurs responsabilités constitutionnelles en attendant paisiblement, entre paresse et démagogie, la décision de censure dont ils sont pourtant certains. Qu'elle intervienne, et personne ne se le tient pour dit. Puisque je me suis allé aux confidences, je continuerai dans cette voie. Immédiatement après que le Conseil constitutionnel ait censuré une loi relative à la consultation des sites djihadistes, avec une formulation de bon sens qui ne prêtait à aucune équivoque, l'existence d'un simple délit cognitif étant à l'évidence une monstruosité logique et constitutionnelle, j'ai été le témoin d'une intense activité cérébrale de la Commission des lois du Sénat, aidée d'une foule de parquetiers bénévoles qui n'avaient pas tous l'excuse d'être à la retraite, activité visant à faire revoter un texte du même genre, mais qui, découpé selon le pointillé, permettrait d'éviter la censure. En soi, cette tentative, qui s'est d'ailleurs développée deux fois sur ce sujet, le Conseil constitutionnel maintenant sa position, n'est pas absolument blâmable. Mais elle l'est lorsque ses auteurs veulent à toute force ignorer le texte sur lequel le Conseil se fonde, comme le sens profond de son raisonnement. Ces tentatives en disent long sur notre rapport à notre texte fondateur et à ceux qui ont la charge de le faire appliquer, car il ne s'agit jamais que de trouver une sortie à nos difficultés par une sorte de fuite hors du droit qui manifeste à la fois l'excès de confiance que nous portons à la norme et l'incompréhension de ce qui en fait la valeur. Il y a donc lieu de se féliciter, ceux qui tiennent bon face à cette marée-là. Mais cela ne dispense pas de s'interroger sur les carences évidentes de notre justice constitutionnelle, dont ces juges ne sont pas au premier chef responsables. D'autant que dans un pays où la souveraineté absolue de ce peuple qu'on n'a jamais vu est brandie à chaque fois qu'une règle nous contraint, où la moindre manifestation de bon sens est taxée de relever du gouvernement des juges, ils ont affaire à forte partie. Si bien que, comme les historiens du droit le relèvent à peu près tous, une part de la timidité du Conseil constitutionnel dans certaines affaires peut s'expliquer par la conscience qu'il a d'être assez extérieur à notre tradition juridique. La saisine directe n'arrange rien, le Conseil faisant à cet égard désormais figure de troisième chambre, les dieux premières ayant manifestement oublié l'existence d'une constitution. Il n'empêche, puisque son rôle est si délicat, le Conseil constitutionnel devrait être gardé contre les critiques les plus évidentes. La première critique tient à sa composition. Il n'est simplement pas sérieux d'y faire siéger si largement d'anciens parlementaires, d'anciens ministres, d'anciens premiers ministres, d'anciens collaborateurs de ministres, qui, s'ils l'ont été au cours d'une période récente, ont pu voter, proposer, préparer, approuver telle mesure proposée à la censure. Soit ils délibèrent, et l'exigence d'impartialité visible n'est pas satisfaite, soit ils s'abstiennent, et la Constitution qui a voulu un Conseil de 9 membres est entièrement méconnue. Le Conseil doit, à mon sens, être émancipé de cette forme d'échevinage politico-juridique qui affecte sa crédibilité. Et je n'évoque pas ici tel ou tel membre que j'ai connu et qui se répandait en téléphonage interminable avec ceux qu'il avait pour mission de censurer. Ces choses-là sont courantes, mais on ne peut les imaginer dans aucune cour sérieuse à Washington, à Londres ou à Francfort. La seconde tient à une certaine forme de modération pratique où la prudence quasi-administrative se combine avec les arrangements stylistiques. Que peut comprendre le citoyen à ces annulations de phrases, de membres de phrases et de même de mots? Et comment défendre le Conseil constitutionnel face à ceux qui veulent le circonvenir en tripotant avec ardeur les textes annulés, quand lui-même fait passer ses raisonnements dans le même moule? De même, à quoi peut bien correspondre la mise en application différée d'une annulation ou d'une mesure? Après tout, il s'agit de la Constitution, pas de remembrement rural ou du régime des prises maritimes. Il s'agit de droits imprescriptibles. Comment admettre qu'il puisse continuer d'être méconnu jusqu'à ce que le gouvernement et le Parlement aient pu, en se réveillant, racheter leurs fautes? En soi, cette manière de faire en dit long sur la préférence que nous accordons à l'ordre, quel qu'il soit, sur les droits du citoyen. La troisième critique est plus radicale encore et tient au système de la motivation. Au fond, le système du raisonnement constitutionnel est simple. Soit donc les grands principes. On peut les méconnaître s'il existe un motif d'intérêt général de le faire. Ce motif doit être en rapport avec le texte, il peut être simple ou sérieux pour les cas les plus graves. En réalité, si on les compare aux motivations des cours comparables, celles du Conseil constitutionnel pêchent toujours par le vide. Elles relèvent vaguement un motif et son existence suffit. Mais en quoi l'intérêt général allégué est-il au fond suffisant pour justifier un manquement à un principe cardinal? Le plus souvent, on n'en sort rien. Pour le dire, et pour l'écrire encore plus, il faudrait en effet s'interroger sérieusement au vu de tous sur l'intérêt général lui-même. Cet exercice n'aura pas lieu, alors qu'il a lieu aux États-Unis et en Allemagne, ou même à la Cour européenne des droits de l'homme, ou à la Cour de justice de l'Union européenne, pour ne rien dire de la Cour suprême de l'État d'Israël, dont on méditera avec profit une décision récente. Cette attitude ne correspond pas à ce qu'on peut attendre d'un juge constitutionnel. On voit bien qu'elle procède d'une sorte de prudence politique, tenant au souci de ne pas paraître substituer son jugement au jugement des assemblées élues dans la définition du motif d'intérêt général lui-même. Mais paradoxalement, elle produit un effet inverse et un procès en arbitraire dont on pourrait se passer. Et à mon sens, cette question est inséparable de celle des opinions dissidentes. Nous savons tous qu'elles ont mauvaise presse dans les corps judiciaires. Je crains que ce refus ne soit dicté par la paresse intellectuelle. C'est bien, en définitive, l'opinion dissidente qui rend la décision majoritaire acceptable, parce qu'elle montre aux justiciables l'État, dans le cas de la justice constitutionnelle, le particulier, dans le cas de la justice ordinaire, que son raisonnement a bien été pris en compte par des cervelles éminentes, et non que quelques juges anonymes, soucieux de s'engager personnellement en rien, en ont disposé dans le secret de leur délibération. Le renforcement des motivations appelle nécessairement les opinions dissidentes et je continue l'espoir de les voir advenir. Je rappelle d'ailleurs que le président de la République les avait voulues explicitement dans un discours devant la Cour de cassation prononcé au début de son premier mandat. Une vaste conspiration du silence et de la mauvaise volonté a disposé de cette intention. Mon optimisme n'est pas entier. Pourquoi ? Parce que j'ai pu constater au long des années que le mal, comme disait le vieil Ignace, se cache le plus souvent sous les apparences du bien. Ainsi, pour échapper aux opinions dissidentes, nous vantons les beautés de la collégialité. Je ne crois personnellement plus, désormais, après près de 40 ans d'exercice, à l'intérêt de la collégialité. C'est quand on est seul à répondre d'une décision devant sa conscience qu'on se montre courageux, comme votre secrétaire perpétuel en a donné l'exemple dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Dieudonné. Telle est aussi la raison de ma préférence pour l'institution du juge d'instruction, dont on a pourtant continuellement gêné l'activité au fil du temps par toutes sortes d'innovations collectivisantes et discutables. Au fond, puisqu'il s'agit de justice à laquelle nous tenons, de qui se souvient-on, toutes fonctions confondues? Qu'est-ce qui nous l'a fait aimer? Non pas les juges anonymes du temps de la guerre, de l'épuration des cours militaires de justice, non pas des machines, ces machines qui avaient pris les noms de Patin, de Montgibaud, de Benon, mais Raymond Lindon, requérant avec une hauteur de vue que les péripéties de sa vie personnelle rendaient plus saisissante encore le bannissement d'Abel Bonnard et pas davantage, reliqué au procès d'Élie de Saint-Marc les opinions dissidentes de Brandeis sur la vie privée ou de Scalia sur la liberté de penser. Ce n'est pas à dire qu'il faille bien sûr de l'individuel partout, ce qui serait impossible, mais nulle institution judiciaire ne peut se passer de ce grand ton-là par lequel on s'expose, surtout lorsqu'il s'agit de droits et de circonstances qui nous intéressent tous. Au titre des garanties offertes par l'institution judiciaire, je dirai un mot pour finir de la justice pénale. Nous avons perdu de vue qu'elle engage non pas seulement l'ordre social, mais l'existence même d'une société politique digne de ce nom. Une émotion après l'autre, un gouvernement, un parlement, une loi après l'autre, il me semble que cette justice s'est éloignée d'un rôle que, si nous sommes attachés à l'idéal d'une société libre, nous aimerions lui voir tenir. Car la justice pénale, si elle a pour mission de condamner ceux qui violent la loi ou s'en écartent, ne peut pas être réduite à cette mission. Ici, nous sommes loin du gouvernement des juges, et l'évolution des 30 dernières années tend plutôt à l'inverse, c'est-à-dire à la disparition du juge. La démocratie que nous aimons suppose l'existence d'un citoyen libre. Par liberté, je n'entends pas le désir de faire absolument ce qui lui plaît, désir à quoi nombre de nos concitoyens réduisent l'idée de liberté. J'entends la possibilité de concourir sans contrainte ou avec un nombre de contraintes réduit à l'essentiel à la société politique. Je parle donc de la liberté d'écrire, de s'associer, de manifester, de publier, de voter, ou par le truchement de la représentation, de mettre en jeu la responsabilité du gouvernement. Les auteurs du XVIIIe siècle, Beccaria en premier lieu, mais après lui les constituants américains, avaient bien vu que l'exercice des libertés politiques suppose que le citoyen ne puisse en aucune manière être intimidé par l'État, d'où les séparations des pouvoirs, d'où l'idée que la répression nécessaire ne peut en aucun cas être exercée par une autre autorité que l'autorité judiciaire, indépendante des deux autres et jouissant de garanties à cet effet. Nous sommes portés à l'inverse, par la fréquence des états d'urgence, par le transfert des compétences auxquelles ils ont donné lieu, mais ce n'est pas le plus grave. Afin que le citoyen reste libre de ses choix, si du moins nous entendons persévérer dans l'être de ce qui est notre état de droit, quatre conditions sont nécessaires. La séparation des pouvoirs doit être maintenue. Le citoyen doit être réputé innocent jusqu'au moment de la commission du crime ou du délit. Une fois sa peine purgée, il doit être a priori et par principe jugé capable de reprendre sa place dans la société. Il doit enfin avoir le sentiment d'avoir été bien jugé dans le cadre d'une procédure claire par un juge et non par une machine. Je reprendrai successivement ces quatre points. Que nous n'attachions pas autant d'importance que nous devrions à la séparation des pouvoirs, c'est l'évidence même. Tous les acteurs y concourent. Quand il advient, j'en ai eu l'expérience, qu'une demande de levée d'immunité parlementaire ait été sollicitée puis obtenue sur la base d'un faux, le bureau de l'Assemblée nationale ne se juge pas compétent pour rétablir l'immunité ni la juridiction administrative pour contrôler son refus d'agir. Là-dessus, d'ailleurs, on reste frappé que notre droit n'ait pas évolué. Le régime des immunités date d'un temps où le parquet était aux ordres et où le juge d'instruction était tout puissant. Le simple déclenchement d'une enquête préliminaire suffisamment médiatisée peut aujourd'hui réduire en pratique à l'inaction le parlementaire comme le membre du gouvernement. Et bien sûr, les politiques ne peuvent pas échapper à la loi commune. Mais la manière dont ils s'y trouvent soumis doit comporter des garanties qui, à la fin, servent nos privilèges et non les leurs. Nos privilèges, parce qu'ils fondent cette séparation des pouvoirs qui nous est nécessaire à nous, citoyens, et non pas à eux, professionnels de la politique. De même que le secret de l'avocat ne vise pas à le défendre, lui, avocat, mais les justiciables, la séparation des pouvoirs ne vise pas à protéger les détenteurs des pouvoirs, mais le citoyen dans l'intérêt duquel cette séparation a été instituée. Et les exemples sont nombreux, au-delà même des manifestations de jactance gouvernementale à quoi nous sommes habitués à chaque fois qu'un jugement déplaît à un ministre. Prenez le règlement du Sénat, par exemple. Il prévoit la convocation obligatoire à peine de dénonciation au parquet et l'obligation de témoigner sous serment, sans respecter aucunement le droit de ne pas s'incriminer soi-même, quand bien même le témoin en question serait visé au même moment par une enquête judiciaire. Personne ne s'en formalise. Lorsque la Cour de cassation a rendu très récemment une décision de principe relative à la purge des nullités relatives à la séparation des pouvoirs, vous savez, dans les affaires Sarkozy puis Fillon, ce qui m'a surpris n'a pas été qu'ils la rendent, mais qu'on ait pu vivre si longtemps dans un système où la méconnaissance éventuelle de principes si essentiels était mise au rang d'une erreur dans la publication d'un arrêté de nomination ou de ces brindilles procédurales soulevées par les avocats et dont il est difficile de reprocher au juge de vouloir reporter l'examen à plus tard. Cet état de confusion n'est en rien satisfaisant. Et il ne l'est pas quel que soit le bénéficiaire de la confusion. Évidemment, il est regrettable, du moins en ce qui concerne mon propos, que ces violations soient commises au détriment de l'autorité judiciaire. Mais l'inverse ne l'est pas moins. Lorsque l'autorité judiciaire dépasse à son tour le champ de ses prérogatives, ce qu'elle met à mal, c'est la possibilité d'une action gouvernementale digne de ce nom. Or, celle-ci est également à la base du régime représentatif. À quoi rimerait un système où le citoyen peut participer au débat public et choisir ses représentants sans être intimidé, si c'est pour que ceux-ci se trouvent, à leur tour, empêchés d'agir par le soupçon ? Cela n'aurait aucun sens. C'est pourtant le système dans lequel nous vivons à l'heure actuelle. Et c'est ici que le problème de la répression pénale des actes ministériels apparaît dans toute son ampleur. On voit bien que la nature ayant horreur du vide, les défaillances avérées de la responsabilité politique encouragent la mise en jeu de la responsabilité pénale. Toute la difficulté vient de ce qu'en la mettant en œuvre, les juges utilisent un corpus qui n'a été aucunement prévu à cet effet. Toute décision publique suppose, on le sait, un arbitrage. Une fois réalisé, cet arbitrage a nécessairement suscité au mieux des mécontents, au pire des victimes, dont les intérêts, plus ou moins graves, ont été lésés. On ne peut pas s'en déraisonner, s'attacher à juger ses conséquences seules, sans considération du reste, et sanctionner un ministre de la Santé qui a pris ou s'est abstenu de prendre telle décision difficile en se fondant sur des griefs d'empoisonnement ou de mise en danger de la vie d'autrui. Il est rien moins qu'évident que ces incriminations ont été prévues pour des actes individuels sans aucune portée générale. Autant assigner le ministre des Armées à raison des morts en opération, au motif qu'une action diplomatique bien conduite aurait rendu inutile cette guerre qui a causé des morts. Et ceci vaut aussi bien sur un autre terrain, dans l'autre sens, pour le Conseil d'État statuant en référé sur l'urgence climatique. Si les juges utilisent, comme c'est le cas, un corpus inadapté, c'est qu'ils n'en ont pas d'autre. Et c'est là où je disais tout à l'heure que tout ce qui advient n'est pas nécessairement de leur faute. Le crime de forfaiture me paraît bien préférable. Et je serais, à l'évidence, partisan qu'on le réintroduise. On peut, le cas échéant, reprocher à un ministre d'avoir imprudemment abandonné sa charge. Ou à supposer qu'on puisse le prouver, de s'être montré absolument inférieur à sa charge, en prenant les décisions qu'il devait prendre en fonction d'objectifs personnels ou collectifs entièrement étrangers à ses devoirs. Mais on ne peut pas s'attacher, après les faits, aux conséquences seules, comme si elle n'était pas venue d'un arbitrage complexe que le juge n'a pas vocation à juger, puisqu'il est par nature du ressort de la responsabilité politique. Le citoyen, donc, je le disais, a droit d'abord à la séparation des pouvoirs, mais il a droit surtout à ce que son innocence de principe soit présumée. Et je ne parle pas simplement de la présomption d'innocence. Mise à mal de toutes parts, par l'opinion, les réseaux, la publicité des enquêtes, les violations du secret de l'instruction, mais plus profondément de cette étrange présomption de culpabilité que nos législations successives ont fini par créer. Si un citoyen est réputé coupable et susceptible d'être traité comme tel, il cessera tôt ou tard de jouir effectivement de sa liberté. Nous sommes entrés depuis un certain temps dans une justice de l'intention, qui est l'exact opposé de ce que pensait Beccaria lorsqu'il écrivait dans son traité que, je cite, « la vraie mesure des crimes est le tort qu'ils font à la nation et non l'intention du coupable ». Par le truchement de diverses incriminations, l'entreprise terroriste individuelle, l'association de malfaiteurs à but terroriste, nous avons fait reculer dans le temps la définition de l'acte criminel, qui peut exister désormais sans qu'il existe même un commencement d'exécution. L'idée fondatrice de notre droit criminel depuis le Moyen-Âge était qu'avant l'acte criminel, il n'y a rien. Et qu'avant donc qu'il ne soit commis, fût-ce sous la forme du simple commencement d'exécution, il n'existait que des citoyens comme les autres, c'est-à-dire des citoyens innocents. Rompre avec cette conception, c'est faire de tout citoyen un criminel en puissance. C'est organiser la société précaire du soupçon, de la surveillance et de la rétention générale, ou pire encore. Évidemment, nous n'y sommes pas, et les propos de ceux qui parlent à notre propos de dictature ne méritent qu'un haussement d'épaule. Mais la liberté effective tient au climat de liberté. Et l'on voit bien que celui-ci se dégrade. Je vous en donnerai un exemple, le dernier. À propos des Jeux Olympiques, des dispositions législatives relatives aux Jeux Olympiques, qui sont passées sans que personne, pas même au Conseil d'État, n'y fasse obstacle, et dont je vous rappelle qu'elle prévoit, pour mieux céder au chantage d'une organisation sportive internationale privée marquée par des faits de corruption avérés, des tests génétiques auxquels nous nous refusions depuis 30 ans en admettant la possibilité de leur transmission aux pires États de la planète, mais en passant par le Canada pour ne pas violer le règlement général de protection des données. Hier, le terrorisme ou la pandémie, aujourd'hui, le sport et l'argent, demain, les préoccupations climatiques ou je ne sais quoi d'autre. On voit bien qu'un motif après l'autre, nous éloignons insensiblement de notre idéal. À la fin, nul ne peut être réputé prédisposé au délit ou au crime, ou même au grief de troubler l'ordre public, à raison de ses opinions, de sa race, de ses lectures, de ses habitudes, de son origine, de sa religion, fût-elle l'islam, du caractère agité qu'il manifestait dans l'enfance, sur la base des statistiques qui prétendent en rendre compte. En dehors de cette idée, ce qui s'impose, ce n'est pas la justice, c'est la pure et simple doctrine du contrôle social, de la ségrégation et de l'éloignement. Et celle-là, on sait à quel genre de droit il faut la rattacher. Il en va de même de la prescription. Y renoncer, comme de larges secteurs de l'opinion poussent à le faire, c'est atteindre également les droits du citoyen. Contrairement à ce qu'on lit parfois, la prescription n'a pas essentiellement trait à l'oubli ou au pardon. Elle a trait à l'impossibilité d'assurer un procès équitable longtemps après les faits, alors que les circonstances ont changé, que les idées dominantes ne sont plus les mêmes, que le passage du temps a altéré les témoignages et les preuves. Et tout ceci n'a pas à voir avec la gravité des actes commis, sauf à décider, comme autrefois pour le parricide ou la lèse-majesté, que certains actes devraient échapper aux procédures communes. D'autant que la poursuite pénale, en définitive, trouve sa légitimité dans la répression de l'atteinte portée à l'ordre social d'aujourd'hui, et pas dans la répression de l'atteinte portée à l'ordre social d'avant-hier. Mais surtout, la règle de prescription fait obligation au parquet de poursuivre et n'a été faite que pour cela. La multiplication des actes interruptifs n'a pas d'autre effet que de maintenir indéfiniment le citoyen dans la dépendance de l'État, et ceci n'est pas acceptable. Le citoyen a droit, enfin, me semble-t-il, à savoir par avance qu'il sera réintégré dans la société politique une fois sa peine accomplie. S'il cesse de pouvoir le penser, il cesse d'être un citoyen libre. Là aussi, cette conception change sous nos yeux, le point de retournement ayant été atteint avec la tristement célèbre rétention de sûreté. Et là-dessus, Jean-Denis Bredin, dont j'évoque avec émotion la mémoire, a dit en son temps tout ce qu'il y avait à en dire. Il faut enfin que le citoyen ait le sentiment constant de savoir que s'il sera jugé, il le sera dans le cadre d'une procédure claire, par un juge et non pas par une machine. J'ai dit un mot de l'obscurité des audiences pénales, mais le problème est bien plus grave. Du début à la fin, tout paraît combiné pour que le justiciable ne sache jamais exactement à qui il a affaire. Regardons-y d'un peu plus près, du début à la fin, en se souvenant que pour l'essentiel et contrairement aux apparences, l'issue du procès pénal se dessine au début de la procédure. L'inculpé est introduit après un temps qui peut être long dans le bureau du juge. Il ne sait pas ce qui l'attend. Il est fondé à imaginer que ce juge-là sera son juge, que c'est entre ses mains que pour l'essentiel il va remettre son sort. On ne lui dit pas, et en particulier pas le juge, qu'il n'en est rien. La multiplicité des intervenants dilue les responsabilités au-delà de l'acceptable, mais il ne le sait pas, le prévenu. Le juge au sens large prononce une peine lourde, imaginant toujours que le juge de l'application pourra l'aménager. Le magistrat instructeur saisit le juge des libertés, qui lui ne connaît du prévenu qu'un dossier, et qui d'ailleurs ignore l'état exact de l'instruction et des enquêtes qui lui sont liées. Et c'est à lui pourtant que reviendra, manœuvrant une balance absolument théorique, de régler le problème de la durée de détention. La durée des détentions provisoires est longue, mais ça n'a pas d'importance. Assurer que l'on est toujours, elles seront toujours validées par le jugement qui vient. Le parquet peut user du référé détention, la chambre de l'instruction pour revoir les décisions du juge. Un chat, même passé par l'école de la magistrature, n'y retrouverait pas ses petits. Et ce qui est vrai des responsabilités est aussi vrai de l'argumentation. Le juge devrait écrire ce qu'il pense. Et là-dessus, la motivation des décisions anglaises, qui pourtant appliquent des directives générales précises, est de nature à nous faire monter le rouge au front. Mais le juge s'en abstient parce qu'il est porté à imaginer ce qui conviendra le mieux à ceux qui jugeront son propre jugement. Ainsi, tout concourt aux vagues. Prenez l'application de l'article 144 du Code de procédure pénale sur les nécessités de l'instruction justifiant le maintien en détention, formule aussi creuse qu'il est possible. Les nécessités de l'instruction sont à la justice pénale ce que la crainte de la persécution est au juge de l'asile ou le motif d'intérêt général au juge constitutionnel, un ensemble de mots valises fonctionnant comme un piège conceptuel sans égard pour la réalité. À la fin, on s'en tire toujours par ces formulations vagues qui ne prêtent à aucune critique et dont le fonctionnement courant de la justice répressive nous offre d'innombrables exemples. Mais en revanche, une mise en examen, qui est l'acte le plus important en réalité pour le prévenu de toute la procédure, ne fait-elle l'objet d'aucune exigence de motivation. Cela dit, il ne servirait à rien que la mise en examen soit motivée si c'était pour l'être au moyen de ces formules creuses dont abusent les juges lorsqu'on leur inflige l'obligation de motiver. Je regrette de n'avoir pas plus de temps à consacrer à cette question de la motivation qui me paraît absolument centrale parce qu'elle fonde en soi la légitimité du système judiciaire, mais aussi parce qu'elle est au centre de cette imputation de laxisme des juges si courante aujourd'hui. En réalité, l'imputation de laxisme, qu'on lit tout le temps dans les journaux, elle est consubstantielle au système des plafonds. La différence entre la peine encourue et la peine effectivement prononcée alimentant un procès sans fin. La seule manière de progresser, c'est que la différence apparaisse à chaque fois justifiée par une motivation où la conviction profonde d'un juge visiblement soucieux de l'assumer entièrement tiendrait autant de place que l'analyse de la personnalité des actions du prévenu. C'est exactement ce qui se passe quand vous lisez une décision pénale de la justice britannique. En raison de notre méfiance à l'égard du juge en tant que personne, nous en sommes extrêmement loin. Faute d'avoir rendu à la justice la dimension personnelle qui lui est nécessaire, toutes les réformes de la motivation, et j'ai le regret de devoir me référer ici à ce qui a été fait depuis 10 ans dans les cours suprêmes sans en accepter aucune, n'aboutissent qu'à augmenter la part du bavardage sans profit pour personne et relèvent d'une pure et simple rhétorique de l'illusion. La simple obligation de motiver ne suffit en rien si elle aboutit, ce qu'on voit le plus souvent, du haut en bas de l'échelle judiciaire, à la répétition des mêmes formules creuses et qui n'éclairent jamais sur le sens profond d'un jugement. Plus de la moitié des détenus dans les prisons françaises ne le sont pas au titre d'une condamnation motivée. La moitié ou plus, puisque les jugements, comme vous le savez, ne sont pas motivés dans l'écrasante majorité des affaires correctionnelles, sauf bien sûr en cas d'appel, l'appel seul déclenchant l'obligation de motiver. Ce chiffre est effarant en soi. La conséquence est simple, et de nombreux juges m'en ont fait l'aveu. Ce système les encourage à tenir une sorte de milieu en termes de peine, pour que ni le parquet ni le prévenu ne soient tentés de faire appel, parce qu'alors, ils seraient obligés de motiver. C'est le choix du ventre mou. Pas de relax, le parquet ferait appel. Pas de peine trop lourde, le prévenu fait appel, et on serait obligé de travailler. Ainsi vont à la rivière ensemble l'idée de la liberté et celle d'une répression juste. Ici, je vous paraîtrai peut-être très prosaïque, mais je ne peux m'empêcher de souligner que le fait que les acteurs appartiennent au même corps et se côtoient sans cesse n'arrange rien. Il est plus difficile de relaxer que le parquetier avec lequel on partage le saumon mayonnaise de la cantine a requis quant à lui une belle condamnation. À l'origine de ces errements, il y a une volonté diffuse, tenace, inavouée, persistante en France de réduire partout la part du juge. Pas de nom, pas de collégialité, pas d'utilisation de la première personne, pas de motivation de la décision la plus importante. Et lorsque la motivation existe, la motivation stéréotypée qui naît de l'anonymat, le refus absolu des opinions dissidentes, le juge dans sa fonction et dans sa dignité, on est la victime autant que le citoyen. C'est qu'au fond, en France, on n'aime pas le juge, contrairement à ce qu'on voit par exemple en Angleterre. Tout conspire donc à son effacement, à ce qu'il devienne gris, invisible, sans opinion, comme si, précisément, la justice devenait plus légitime, plus acceptable d'être administré par des machines anonymes. Lorsque les corps judiciaires et la classe politique semblent s'affronter, on se demande parfois s'ils ne sont pas secrètement d'accord. Les politiques veulent que les juges appliquent un tarif et s'en tiennent là. Les juges, en tant au moins que leur hiérarchie sommitale les représente, ne veulent pas s'engager personnellement par crainte de voir leur responsabilité mise en cause. Et j'ai peine à croire là-dessus à l'argument du monde complexe. Le monde complexe est toujours complexe pour ceux qui ont à juger. Ce qui s'est passé depuis que je suis entré il y a 40 ans dans l'univers de la justice, c'est que l'homme, celui dont parle également Simenon, Gide et Stevenson, n'inspirant plus confiance, a disparu sur les procédures, et pas davantage. Et je parle ici de l'homme qui juge, comme de l'homme qui est jugé. De même, l'esprit et la faculté de juger ont-ils disparu sous la poussière sédimentée des législations ? La langue des jugements s'est altérée, elle est devenue plus abstraite et partant plus obscure. Des lois surabondantes, techniques, administratives y ont leur part, mais ce n'est pas la part la plus importante. Une voix désespérante nous souffle que nous n'y pouvons rien. Si nombre de principes se sont effondrés au fil du temps, c'est peut-être simplement que nous n'y tenions pas. Qu'ils étaient en quelque sorte des importations un peu artificielles du rêve de Montesquieu dans la théorie de Rousseau, ou plus prosaïquement du pessimisme anglo-saxon quant au pouvoir dans notre optimisme bureaucratique et bonapartiste. Il est vrai qu'entre l'avènement tocquevillien des masses émotives, égalitaires et séparées par les réseaux d'une part, et de l'individu réduit à sa vocation de narcisse et de consommateur de l'autre, le temps nous semble passer du grand style de la justice. Le règne si particulier chez nous de l'administration, qui colonise à la fois par ses habitudes de penser le monde politique et le langage même du droit, n'arrange rien. Pour reprendre une formule de Marc Fumaroli, en tout politique français, un baour lormian des épopées bureaucratiques sommeille. Et s'il se réveille, nous ne sommes que trop portés à lui donner nos suffrages. La justice en paye le prix. Et au moment de quitter cet univers, je me dis avec mélancolie qu'on n'entendra plus Léon Blum conclure. Lindon, rappelé au milieu d'une magistrature, à demi repentante seulement de ses errements de la guerre, une société meurtrie au pardon et à l'équité, ni le parquet se taire pour que le jury des assises puisse entendre à loisir la grande voix de Chex d'Estanges. Personne, au fond de cet univers, j'en témoigne, n'a plus de respect pour personne, parce que les acteurs de ce jeu que le citoyen ne comprend plus ne paraissent plus concourir à une œuvre commune. Le juge doit donc reprendre toute sa place. Il faut qu'on le connaisse, il faut qu'il signe, il faut qu'il s'engage, qu'il diffère publiquement le cas échéant. Il n'y a pas de respect du droit sans assomption du juge. Et point n'est besoin pour cela de porter perruque comme en Grande-Bretagne. Et j'ai souvent pensé que les costumes absolument ridicules dont la justice s'affable, la robe de pasteur, les simarres écarlates et l'hermine, n'avaient d'autre fonction que de masquer ou de réparer le caractère dégradé aux yeux du public d'une vocation qui reste malgré tout parmi les plus belles. J'ai voulu diriger un peu de lumière sur ce qui, depuis mes débuts, m'avait frappé dans le fonctionnement de nos institutions judiciaires. Peut-être le tableau vous a-t-il paru sombre, mais c'est parce que nous restons malgré tout l'un des derniers États civilisés de la planète que nous avons, me semble-t-il, le devoir de transmettre ce que nous avons reçu. Je vois bien les forces qui s'y opposent. L'idéal du citoyen qui semble disparaître avec la société politique elle-même, remplacé par ces individus ou ces groupes qui se croient fondés à faire passer la nation au tourniquet des droits de créance, l'indulgence pour moi, les bagnes et les supplices pour les autres. Et avec l'idée du citoyen, cette idée qui lui est connexe, que toute forme d'intimidation personnelle ou publique est inacceptable. On objectera la gravité des atteintes portées à l'ordre, fraude, pédophilie, harcèlement ou terrorisme. À chaque fois que l'une de ces atteintes paraît avéré, le premier mouvement est d'abolir la garantie des droits, présomption d'innocence comprise, comme si notre système n'avait vocation qu'à éviter qu'un innocent avéré soit, comme on dit, traduit en justice, alors qu'il vise surtout à ce que l'État ou l'opinion ne puisse faire peser sur personne la présomption d'être coupable, ce qui est très différent. Pendant des années, comme toute personne formée à l'idéal du libéralisme politique, j'ai vu dans l'État, soucieux de contrôle social et peu porté à respecter autre chose que l'efficacité, l'ennemi du citoyen. Et après tout, c'est ce que pensait Jefferson. Je suis frappé aussi, aujourd'hui, par l'inverse. Non pas que l'État soit devenu faible face aux forces de dislocation qui semblent le menacer. Jamais les facilités d'intrusion qui lui ont été consenties n'ont été aussi grandes. Surveillance, dévoiement de la garde à vue, et j'en passe. Toutes les occasions lui sont bonnes, de l'attentat aux Jeux Olympiques en passant par les virus. Mais ce qui m'inquiète d'abord, c'est la conjonction de ses pouvoirs et des réquisitions impératives d'une société. C'est le parquet où les juges, motivés par les passions du temps, mis en mouvement par les intérêts personnels et communautaires, y trouveront l'occasion de regagner un crédit perdu. À ces évolutions concourent les effets de notre crise morale, de notre crise de l'action publique, nos doutes, notre perte de foi dans la grandeur de ce que nos prédécesseurs avaient au prix de quelles batailles et de quels sacrifices voulu créer, et peut-être, pour finir, l'évaporation de cette idée du salut collectif dans l'histoire qui nous avait longtemps guidés, religion, science ou lumière aidant, et dont notre système de droit continuait malgré tout de porter la trace. Il n'empêche que notre devoir est de conserver ce qui mérite de l'être, que dans les circonstances troublées, nous avons le devoir collectif de défendre les institutions judiciaires et la tradition de civilisation qu'elles portent contre les attaques proprement insensées dont elles font l'objet, mais alors, il faut qu'elles soient pleinement défendables. Ceci ne suppose pas de grandes réformes. L'idée de réforme est devenue suspecte, à mes yeux du moins et à juste titre. Depuis trop longtemps, la réforme est devenue synonyme de lois nouvelles, introduites après ramassage des copies dans les bureaux de l'administration et présentées avec le secours médiatique de ces éléments de langage qui sont devenus l'autre nom du mensonge. Nous voilà sommés de compatir, de nous méfier, de lutter contre nous-mêmes, d'éprouver de la reconnaissance ou de l'admiration, de consentir à ces réformes de hasard qui, censées préparer le monde nouveau, ne témoignent surtout que de notre éternelle préférence pour la forme, mais surtout d'obéir à ces 30 000 pages de lois dont on nous gave comme on ferait à des oies pleinement républicaines. Et nous devons réciter le psautier du monde nouveau, remis à jour par les apôtres de ce qu'on appelle, en termes savoureux et dérisoires, la légistique. On peut rêver s'il s'agit de défendre la justice à des arrangements plus modestes, qui viseraient à rendre ou à donner au juge une dignité incontestable, fondée sur l'engagement personnel, et au citoyen un meilleur sentiment de ce qu'il attend s'il vient à manquer à ses devoirs. On peut dire, et j'en terminerai par là, des institutions judiciaires, ce que Lavis répondait à l'impératrice Eugénie, soucieuse d'être instruite en une phrase des méandres de notre histoire nationale. Après un temps de réflexion, le vieil historien avait lâché « Au fond, madame, ça ne s'est jamais très bien passé. » Il n'en va pas autrement des institutions judiciaires. Leur propos est de faire entrer l'éventail déplié des passions humaines dans le mince fourreau du droit et de ses techniques. Cet exercice ne peut satisfaire profondément jamais, ni ceux qui jugent, ni ceux qui sont jugés. On devrait se méfier d'institutions qui susciteraient l'entière approbation de tous. C'est pourquoi je vous demande pour finir d'oublier ce qui, dans mon propos, vous a paru marqué par trop de pessimisme. Et ainsi puis-je reprendre à mon compte la dernière phrase de Paulhan, concluant les 400 pages des Fleurs de Tarbes par ce faux regret. Mettons que je n'ai rien dit.
C'est bien. Merci. Merci beaucoup, François Sureau. On aimerait disposer de suffisamment de temps, non pas pour répondre à tout ce que vous avez dit, mais pour pouvoir commenter un certain nombre des points que vous avez abordés. Tout ce que vous avez dit, d'ailleurs, sous réserve peut-être quand même parfois de quelques excès, fait globalement du bien. Fait globalement du bien. C'est roboratif, c'est incisif. Et je pense qu'il faut être sans concession en début d'année quand on aborde les regards qu'il faut porter sur la justice.